D'ailleurs, les banques centrales américaines ou européennes ne s'en inquiètent pas trop et elles ne jugent pas encore utile de changer leur stratégie. On constate 1,48% pour le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans et moins 0,04% pour l'obligation française. Du côté des valeurs, Renault profite d'une note favorable d'UBS qui est passée à l'achat. Le titre du constructeur automobile finit en hausse de 5%. C'était Rémi De Michelis, Investir pour RFI.
Merci Rémi De Michelis. Ainsi s'achève le journal. Merci à vous de l'avoir écouté. Très bonne fin de journée sur RFI. Radio G. 101.5 FM.
Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans l'Oreille Curieuse, l'émission diffusée du lundi au jeudi à partir de 18h10, pétante. L'émission qui vous parle d'actualités culturelles, locales et d'autres découvertes. À la technique ce soir, c'est moi Mehdi et je suis bien sûr accompagné de Anne-Lie, directrice de l'Oreille Curieuse, qui me teste ce soir. Et j'espère que je vais pas me foirer, sinon demain c'est direction Pôle emploi. Bonjour Anne-Lie.
Bonjour Mehdi.
Et je suis accompagné du célèbre Céleste. Bonjour Céleste.
Salut Mehdi.
Ce soir, tu viens nous parler de cinéma avec ta chronique hebdomadaire,
évidemment,
le Guichet Choral, qui sera en deuxième partie d'émission. Et de quoi tu vas nous parler ce soir?
Oula, surprise, surprise, vous verrez. Restez branchés à l'écoute.
Ça marche. En première partie, on découvrira une chronique inédite de Tonton Albert, La bouteille aux trois quarts vide, de quoi vous émoustiller. Et en fin d'émission, on retrouve Pierre Hugo et son petit lexique du théâtre. Petit proverbe du jour, tout est drôle dès l'instant que ça arrive aux autres. Une citation de Marcel Achard, un dramaturge, scénariste et réalisateur français décédé en 1974. Avant la chronique de Tonton Albert, on commence en musique avec un titre que j'adore, c'est Rise de Parker Lewis. Un chanteur-guitariste très peu connu, mais qui va vous transporter avec sa voix suave et sucrée.
Yeah.
Et on accueille ce soir un nouveau rendez-vous dans cette émission. Je suis très contente. On retrouve la bouteille aux trois quarts vide. C'est le titre de cette chronique qui aura lieu a priori une fois toutes les deux semaines. Peut-être que ça bougera. Et c'est une chronique de mauvaise humeur. En vous le disant, peut-être que je m'inquiète un petit peu d'avoir dit oui à tonton Albert qui est le responsable de cette bouteille aux trois quarts vide. Salut Albert.
Bonjour Annie. N'ayez aucune crainte. Car je vais vous donner aujourd'hui des occasions de nous réjouir. Soyons réalistes, tout ne va pas si mal. C'est sûr, de prime abord, la situation qui prévaut depuis un an n'a rien d'une promenade de santé. Pourtant, si on y regarde de plus près, les motifs visant à relativiser l'ampleur du côté obscur de la farce que nous subissons ne manquent pas. Déjà, on n'a jamais autant parlé de santé. Convenons-en, la santé était jusqu'alors une thématique uniquement perçue à l'aune des coûts qu'elle induit. En somme, une calamité. Et voilà que la santé fait l'objet de toutes les attentions, propulsée sur le devant de la scène médiatique sans risquer d'être détrônée par quoi que ce soit. Il y a des ritournelles du top 50 qui se contenteraient de moins. Et pas question cette fois de l'aborder en déplorant que soigner la population coûte un bras. Il fallait naguère économiser jusqu'au moindre sparadrap, et voilà que l'on ne regarde plus à la dépense. De nos jours, c'est un peu open bar pour l'hôpital. Et vas-y que j'ouvre des centaines de lits en réanimation, et vas-y que je suis prêt à former du personnel soignant en deux coups de cuillère à peau, et vas-y que je pourrais me mettre à payer ces mêmes personnels à peu près décemment. Oui, je sais. Il n'y a pas si longtemps, les soignants et soignantes qui manifestaient pour réclamer de vrais moyens pour l'hôpital étaient gazés par les CRS. Et l'on supprimait des lits à l'hôpital comme l'on brade des vieilleries sur le bon coin. Autre temps, n'est-ce pas? D'aucuns ont parlé d'argent magique. Le problème avec l'argent magique, c'est qu'il s'apparente au carrosse de Cendrillon. Au bout d'un moment, il redevient citrouille. Et je n'ose imaginer l'addition qui nous sera présentée lorsque sonneront les 12 coups de minuit marquant la fin de la crise sanitaire. On peut faire confiance aux joyeux philanthropes qui dirigent le pays pour nous délivrer, au moment opportun, le discours qu'ils auront concocté entre deux, quoi qu'il en coûte. Mes chers compatriotes, ou mes pauvres lapins, c'est selon. Aucun pays ne peut vivre au-dessus de ses moyens. Les milliards empruntés sur les marchés financiers n'étaient pas gratuits, vous savez. Aussi, et croyez bien que je le déplore, la crise sanitaire aura eu raison de la sécurité sociale. Ce merveilleux legs de nos aînés, il faudra désormais nous en passer, ne compter que sur nous-mêmes. Pour rebondir, n'est-ce pas? Il suffit de traverser la rue, où vous attendent les assureurs privés. Voilà le genre de discours qui pourrait bien nous être servi à l'heure où les bonnes fées sont couchées et laissent Cendrillon se dépatouiller toute seule vêtue de ses haillons au bord d'un chemin truffé d'ornières par une nuit sans lune avec un portable qui ne capte aucun signal. Nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, vous aurez observé qu'il n'y a plus aujourd'hui qu'une unique cause de mortalité. On n'avale plus son bulletin de naissance à cause de cancer, de pathologie cardiaque ou même d'accident de la route, mais du seul fait du coronavirus. Bref, tant que vous ne l'attrapez pas, vous êtes éternel. Si ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut. L'autre bonne nouvelle dans ce marasme épidémique, c'est que nous avons toutes et tous remarqué combien nous restions des êtres profondément sociaux. Car, claquemurés à domicile, les autres, oui, même les voisins qui tirent systématiquement la gueule quand on les croise, nous ont manqué. C'est à croire que nos contemporains nous sont indispensables et que nous aspirons à faire société avec eux. Pour le moins étonnant, non ? Passer un très bref moment de relative euphorie façon « Ah, on va pouvoir enfin être tranquille », le sentiment de solitude est devenu pesant, envahissant, voire complètement anxiogène. Et il persiste, ce sentiment, il persiste. Et ces étudiants qui jusqu'alors pratiquaient la fuite en avant en poursuivant des études parfois un rien absconses, afin de différer façon la Pénélope d'Ulysse leur périlleuse entrée dans le monde du travail, eh bien, tellement écœurés par les conditions qui leur sont réservées aujourd'hui, voici qu'ils sont prêts à renoncer au long terme et à un emploi correctement rémunéré, mais hypothétique, pour le très court terme et le moindre petit boulot payé au lance-pierre leur permettant de régler leurs factures. Que les jeunes ne soient plus les jouets de leurs illusions, n'est-ce pas là une authentique raison de se réjouir ? Et puisque j'évoque la jeunesse, vous avez remarqué que depuis le début de l'épidémie, nous avons tous et toutes rajeuni. Non ? Pourtant, comment expliquer que nos sommités gouvernementales se soient adressées à nous comme si nous étions des enfants et non pas des adultes responsables ? C'est bien le signe que nous ne faisons pas l'âge que nous pensons avoir. Merci donc au Covid pour cette inattendue cure de jouvence. L'épidémie a aussi balayé les idées reçues. Ainsi, nous pensions que la convivialité était source de bonheur partagé, voire était en mesure de cimenter la société. Pure hérésie qu'une telle vision du monde. Car, au final, qu'est-ce qu'elle apporte, la convivialité ? Les rapprochements, les contacts, les bavardages au bistrot, les bises en toute saison, les serrages de main, les petites bouffes entre amis, les soirées au théâtre, au concert ou au cinéma, hein ? Des maladies, ma bonne dame ! Que des ennuis, que du danger ! La convivialité, c'est la plaie des sociétés modernes. Heureusement que des esprits supérieurs nous ont ramenés sur le droit chemin. L'autoroute de l'individualisme à tout craint, si chère à Sainte Margaret Thatcher. La voie de la méfiance généralisée pour tout horizon, seule à même de nous épargner le trajet jusqu'aux urgences. Un bastion a toutefois résisté. Celui des privilèges octroyés aux chasseurs. Un fusil, ça déprime grave quand ça reste rangé dans un râtelier. Un fusil, ça a besoin du grand air. Alors Tartarin et ses compères ont obtenu, sans trop forcer, des dérogations à leur confinement. Il semble même qu'en Indre-et-Loire, le couvre-feu ne les concerne plus, car les sangliers, ça reste ouvert jusqu'à pas d'heure. Oui, il est important de maintenir un peu de stabilité alors que tous nos repères sont faussés. Enfin, il y a un domaine sur lequel la maladie demeure inopérante. La notion de paradoxe reste en pleine forme. La preuve, nous avons toujours en France une ministre de la Culture, alors que la culture dans son intégralité a été réduite au silence par le même gouvernement auquel cette ministre collabore. Quel beau message que celui-ci. Conserver un poste de ministre chargé d'une activité qui a été réduite à néant. Faut-il y voir la volonté d'incarnation d'un souvenir ? Façon, autrefois il y avait des expressions multiformes d'art qui rassemblaient les humains en les divertissant tout en les faisant réfléchir. Le gouvernement miserait-il, à travers le maintien d'un ministère qui n'a plus de raison d'être, sur un effet musée ? Si je puis me permettre, les musées, ce ne sont pas ces lieux culturels qui sont eux aussi bouclés à triple tour jusqu'à la fin des temps ?
Merci beaucoup, tonton Albert. Si je puis me permettre, je t'ai trouvé très convaincant en président de la République. Et je remarque que crise sanitaire, ça reste en tout cas un sujet d'inspiration fort.
Je crois, hélas, Anne-Lie, que nous n'avons pas fini d'en parler.
Eh bien, au moins, nous aurons le plaisir de t'entendre derrière ce micro. Vous, de votre côté, prenez bien soin de vous, hein, tenez bon. Si vous avez envie de continuer à lire et à suivre les textes de Tonton Albert, ça se passe sur le saltimbook.com et je mets le lien sur le podcast de l'Oreille Curieuse.
Good.
C'était le titre Patience de The Breakfast Club, un duo lillois qu'on retrouve dans la sélection 2021 des Inouïs du Printemps de Bourges. À suivre donc, peut-être, à voir. Vous êtes sur les ondes de Radio G, le 101.5 FM à Angers, et vous écoutez L'Oreille Curieuse, la quotidienne culturelle. Et maintenant, on retrouve notre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. Et c'est bien sûr avec Céleste.
Je ne suis pas partisan à l'idée de refaire quelque chose qui a marché. Pour moi, c'est un peu de la fainéantise ou un manque de créativité. Et pourtant, beaucoup du monde du cinéma se lance dans cette démarche. Bonsoir, je suis Céleste du Guichet Choral et aujourd'hui, on va parler des remakes. Un remake est un film, jusque-là ça va, qui reprend une histoire déjà faite auparavant. Remake signifie littéralement « refaire ». On appelle donc ainsi les films dont le scénario a déjà eu une adaptation au cinéma auparavant. Attention quand même avec cette appellation, car le film doit respecter certains points clés pour entrer dans les codes du remake. Parce que sinon, c'est juste une inspiration, parfois très grande, mais pas suffisante pour appeler ça un remake. Genre par exemple, Star Wars de George Lucas, qui s'est grandement inspiré de la forteresse cachée d'Akira Kurosawa, un film japonais de samouraï de la fin des années 50. Le remake implique donc bien de refaire. Il faut donc des personnages semblables, pas forcément le même nom, mais des caractères qui se rapprochent fortement. Une histoire qui puisse se calquer sur l'ancien film, des plans qui se ressemblent, et paf, ça fait des chocs à pic, vous avez votre remake. Attention, il faut aussi différencier un remake d'un reboot. Un reboot est un film qui prend des personnages, des situations, ou un univers qui peuvent sembler similaires à un ancien film, mais dont la direction est totalement différente. Un exemple tout bête serait les films de super-héros, comme Superman ou Batman des années 80-90, et qui ont connu d'autres films récents avec d'autres acteurs, d'autres histoires, mais les mêmes personnages de base. Tandis qu'un remake ne va pas chercher à faire quelque chose de différent. Cela dit, pour les studios, il n'y a pas de grande différence. Dans les deux cas, ils capitalisent sur un nom ou une franchise à succès déjà existante, ramenant d'ores et déjà du monde en salle. Voilà pour la définition du remake. Sachez que ce n'est pas une pratique récente, puisque depuis le début, on en fait, pour des raisons évidentes que nous évoquerons plus tard. D'abord, je vais vous parler de films avant d'élargir. Les remakes peuvent être classés en deux catégories, ceux qui choisissent de faire du plan par plan et ceux qui préfèrent insuffler leur propre style à un vieux film. Je n'ai pas beaucoup d'estime pour la première catégorie, car je trouve que cela enlève beaucoup d'intérêt au visionnage du premier film. C'est vrai, pourquoi s'infliger le visionnage d'une copie alors que l'original existe ? Surtout quand c'est fait sans aucune âme, avec des lions, sans aucune émotion, nous faisant regretter chaque seconde. En plus, ils ont enlevé la chanson de Scar, sérieux, c'était le meilleur moment du film, et là c'est...
Je crois que tu t'égares un peu, Céleste.
Oui, pardon. Je suis encore sous le choc du visionnage du Roi Lion qui m'a laissé quelques séquelles. Donc, ce qui nous intéresse, c'est, bien évidemment, la deuxième catégorie est la plus répandue. C'est des remakes avec un style différent. Aujourd'hui, les remakes ont un peu mauvaise réputation. Lorsqu'une annonce tombe, c'est souvent accompagné par des « Oh non, mais pourquoi ils ont fait ça ?» C'est entre autres à cause des exemples que je vais vous donner. Alors, dans mon sac à malice, j'ai Aladdin et la Belle et la Bête, The Eye, Alice au Pays des Merveilles et Rollerball. Donc, du Disney Live, de l'horreur, de l'aventure burtonesque et de la SF. Commençons par Rollerball. Réalisé par John McTiernan, oui, le même John McTiernan qui a réalisé Piège de Cristal, Predator et Une Journée en Enfer. Ouais, le même qui a révolutionné le film d'action en imposant Bruce Willis comme une icône de blockbuster. Ce film, Rollerball, est sorti en 2002 et est donc le remake du Rollerball de 1975. Le film raconte l'histoire de Jonathan Cross, star d'un sport extrêmement violent, le Rollerball. Oui, d'ici là, tout est logique. Cependant, ce dernier va vite se rendre compte des magouilles de Jean Reno. Enfin, pas Jean Reno, mais le personnage joué par Jean Reno, qui se sert des joueurs de rollerball comme des pions pour arriver à ses fins. L'échec de ce film est expliqué par plusieurs choses. Déjà, le film est sorti après une très longue série de désaccords entre les producteurs du film et le réalisateur. Un grand nombre de défauts de ce film viennent d'ailleurs de ces désaccords qui ont donné lieu à beaucoup de réécritures et de remontages. C'est pourquoi on a finalement une version charcutée du film, ne correspondant pas du tout à ce que John McTiernan avait en tête en commençant le film. Si le sujet vous intéresse davantage, je vous conseille grandement le génial épisode de Chroma sur Rollerball, disponible sur Internet, Dailymotion, YouTube, vous connaissez les bails. Ici, l'échec du film est donc dû à beaucoup de problèmes de production venant de désaccords. Mais il arrive que les films n'aient aucun problème de production et que les soucis viennent d'autre part. C'est là qu'intervient mon second exemple, VI, sorti en 2008, réalisé par David Moreau et Xavier Palu, Cocorico, je suppose, et remake américain du film hongkongais VI, réalisé par les frères Pang. Les Américains aiment bien puiser leurs films d'horreur du côté de l'Asie de l'Est, entre ça, The Ring ou Le Dernier Train pour Busan, qui aura le droit aussi à un remake prochainement. VI raconte l'histoire d'une femme, Moon dans la version originale et Sydney dans le remake, qui est aveugle. Après une opération lui permettant de recouvrer la vue, elle se met à voir des formes inquiétantes et des personnes censées être mortes. Le remake états-unien est assez symptomatique des remakes de films asiatiques. Je ne sais pas si c'est par fierté ou quoi que ce soit, mais très souvent, les America Fuck Yeah doivent toujours faire plus grand, plus grandiose, plus pétant, passant à côté de toute la subtilité du film original. Et c'est malheureusement le cas de The Eye, qui nous offre une héroïne qui n'est pas une simple violoniste surnommée la reine des fausses notes, non. C'est juste la seule soliste de l'orchestre, toujours sur le devant de la scène car c'est la meilleure. D'ailleurs, elle n'est pas juste aveugle. Elle a des super pouvoirs qui lui font décupler ses sens comme Superman. Ah, et là où The Eye hongkongais avait maîtrisé ses apparitions de fantômes avec subtilité, sans les faire bondir trop souvent face caméra dans un cri, son homologue américain ne sait apparemment pas faire puisqu'il nous sert du jumpscare au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Je vous en parlerai sûrement dans une prochaine chronique car l'horreur mérite son propre espace de discussion. Le grandiose, partout, tout le temps, c'est comme Tim Burton avec son remake d'Alice au Pays des Merveilles. Sorti en 2010 et racontant plus ou moins la même histoire que le film d'animation, Alice qui tombe dans un terrier de lapin et qui se retrouve dans un monde fantastique et bizarre. Le film prend très vite une direction étrange. Ah, disons que le scénario ajoute une guerre, monstre légendaire à tuer, le tout dans une esthétique purement burtonesque. Hein. Des corps filiformes, de grosses têtes, des environnements penchés et tordus, un filtre noir et gothique, et servi par une musique digne d'une fanfare des enfers. Mais je sais pas ce qui s'est passé, on est dans une surenchère de n'importe quoi. À vouloir en faire trop, le film en fait vraiment beaucoup trop. On est très loin de l'invitation au merveilleux et au bizarre de l'original. Le film se place comme un remake et une suite, ce qui rend le tout un peu bâtard. Et Disney est bien habitué des remakes, car ces derniers temps, ils nous ont servi une pelletée, comme Aladdin ou La Belle et la Bête, sortis respectivement en 2019 et 2017. En plus, plus ces remakes sortent, plus j'en questionne la pertinence. Car on a beaucoup, voire trop, de similitudes avec les films d'animation originaux, en moins féerique car avec de vrais acteurs. On garde, certes, les chansons, mais l'animation permettait des choses que la prise de vue réelle ne peut pas faire, sauf à renfort d'images de synthèse. Mais du coup, il n'y a pas tant de différence avec l'animation, c'est juste plus réaliste et moins intéressant visuellement. D'autant plus que les réalisateurs ne tentent rien de nouveau. J'en veux pour preuve la scène de la chanson « C'est la fête » de La Belle et la Bête, qui aura pu bénéficier d'un véritable numéro à la Broadway, au lieu d'une réalisation assez convenue et banale, qui ne rend pas honneur au film d'origine. Le tout fait très plat réchauffé avec des ajouts pas forcément très utiles. Genre, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu de la mère de Belle ? L'inclure dans le scénario n'apporte rien à l'histoire. Elle n'est pas là dans le film d'animation et ça ne dérangeait pas du tout. Pareil pour le syndrome post-traumatique de Gaston, censé expliquer pourquoi il est méchant. Alors qu'il peut être juste méchant parce que c'est un sale connard, rien de plus.
Tu dis beaucoup de mal des remakes depuis 5 minutes, t'as l'air très énervé Céleste. Mais il doit bien y avoir des choses positives.
Évidemment, c'est comme tout, hein. Comme on dit, il y a du bon, il y a du moins bon et il y a Pirates des Caraïbes 5. Par exemple, le remake de Cendrillon se classe dans la première catégorie. Sorti en 2015 et réalisé par Kenneth Branagh, il raconte l'histoire de Cendrillon qui veut aller au bal mais en est empêché par sa méchante belle-mère et ses horribles belles-sœurs. Tout le monde connaît l'histoire. Je dois vous avouer que je n'aime pas vraiment le classique d'animation de Disney. Je le trouve assez lent, mou, un peu niais et les chansons manquent de grandiose. Le remake prend la décision d'enlever les chansons du film, ne les gardant que pour le générique de fin. Oui, même Bibidi Bobidi Boo. Les costumes sont magnifiques, mais bon, même dans les remakes nuls, les costumes et décors étaient jolis. Mais là où le film brille, c'est par sa réalisation qui a une vraie personnalité, avec ses cadres à la grue et ses mouvements assez fluides, dans lesquels les coupes ne sont pas tant présentes que ça par rapport à La Belle et la Bête.
Mais alors, pourquoi faire un remake ?
Eh bien, c'est pour 4 raisons principales que je m'en vais vous citer. Tout d'abord, pour un écart culturel. Eh oui, Quand tu vois un film qui fonctionne bien à l'étranger, tu as bien envie de faire le même chez toi, pour avoir un max de moula et pour faire rire les gens de chez toi. C'est pour ça qu'il y a eu un max de remakes de films d'horreur asiatiques, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi de comédies françaises. Il y en a eu aussi une pelletée, de Taxi aux visiteurs, en passant par Le Père Noël est une ordure, Le Grand Blanc avec une chaussure noire, ou Un Indien dans la ville. Le but des remakes de ces films est donc de pouvoir proposer un public qui serait hermétique à la culture des films originaux. Cela permet de rendre le message du film plus compréhensible à un public étranger. Et oui, la motivation n'est pas tout le temps l'argent, mais un peu quand même. Une deuxième raison serait l'écart d'époque. Les films faits à une certaine époque sont empreints d'une certaine vision, d'un certain langage cinématographique, avec des thématiques présentes à l'époque, mais qui aujourd'hui ne nous parlent pas forcément. Comme le Scarface de 1932, qui a son remake réalisé par De Palma en 1983, on a deux films qui ont la même histoire, mais le rythme, le ton et l'écriture sont différents car ils résonnent plus avec l'époque dans laquelle ils ont été réalisés. C'est comme réécrire un vieux livre avec un langage plus actuel, pour qu'il s'inscrive dans une époque plus actuelle. À l'image du Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, avec DiCaprio, qui transporte l'action des deux amoureux dans une banlieue des USA au plein cœur d'une guerre de gangs. Ensuite, on peut avoir un écart thématique. Par exemple, les comics Iron Man, on s'écarte légèrement de sujet, mais je vous promets que ça a du sens. À la base, l'ennemi était le communisme. D'ailleurs, l'un des plus grands ennemis de l'homme de fer était le mandarin, pas besoin de vous faire dessin. Alors, dans l'adaptation récente du Marvel Cinematic Universe, l'ennemi devient le Moyen-Orient et le terrorisme. Le mandarin est alors un personnage chef d'une organisation terroriste. Les thématiques sont un peu plus actuelles. Un autre exemple est l'invasion des profanateurs de sépultures, un film culte des années 50, dans lequel des extraterrestres envahissent le monde en remplaçant petit à petit les humains par des copies. À la base, le thème était la paranoïa du péril communiste, mais au fil des remakes, qui sont au nombre de 3 quand même, on a là des thématiques qui se renouvellent avec la dénonciation des guerres du Golfe et d'Irak, ou l'idée du complot gouvernemental. Enfin, en quatrième position, on a l'écart de qualité. Un réalisateur peut vouloir refaire un film en adoptant exactement la même démarche que le film d'origine, mais en le faisant plus grand, plus extravagant, plus explosif. C'est un peu mégalomaniaque, mais bon. Comme par exemple James Cameron qui a fait True Lies, qui est un remake d'un film de Claude Zidi qui s'appelle La Totale. Cette décision est un peu plus casse-gueule, parce que la folie des grandeurs peut parfois faire défaut. Et c'est pour ça, ces quatre arguments, qu'on a une flopée de remakes depuis le début du cinéma. Car des auteurs veulent se lancer à refaire quelque chose qui existe déjà, dans les domaines cités précédemment. Parfois, on peut avoir de belles surprises. Si le studio laisse le réalisateur ou les réalisatrices faire un film avec leur propre style, comme Kenneth Branagh. Et tant que ces films existeront, les remakes auront tout de même un peu d'intérêt. Je vous laisse sur Eya, originellement chantée par Outkast, mais comme c'est une chronique sur les remakes, c'est une reprise par Panic at the Disco. Sur ce, voyez des films, portez-vous bien. Salut. 1, 2, 3. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna fucking stand to see me walk out the door? Don't try to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. For mom and dad, we're sticking two together, cause we don't know how. Just don't get it till there's nothing at all. We've been together, oh, we've been together, but separate's always better when that feeling's involved. If what they say is nothing is forever, then what makes, 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 love each other. So why, oh, why, oh, why, oh, are we so in denial when we know we're not happy here? Yeah! Oh, hey, yeah.
Merci Céleste.
Mais de rien.
Et dis-moi, on peut les écouter où tes chroniques ?
Alors, vous avez le choix. Vous avez soit la page dans Podcast Plus, pardon, à la page du Guichet Choral sur le site de Radio G. Et maintenant, elles sont aussi disponibles sur Spotify, à la page du Guichet Choral. Donc, vous avez juste à chercher Guichet Choral sur Spotify et vous avez accès aux chroniques.
Super. Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM.
Et on continue l'oreille curieuse en retrouvant Pierre Hugo pour son rendez-vous autour des mots et du théâtre.
Et bonjour, et oui, on est sur un bonjour. Je voulais faire une intro un peu péchue, quelque chose de sympa, qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Genre, je voulais faire une espèce d'alexandrin ou quoi. J'ai un peu fait le tour des pièces de théâtre, j'ai pas trouvé d'alexandrin qui dise bonjour. Et du coup, je me suis dit que dire bonjour, c'était finalement vachement bien. Du coup, bonjour.
C'est un bon début.
Et le jour est bon puisque c'est mercredi et pas n'importe quel mercredi puisque ce mercredi, c'est celui du petit lexique du théâtre. Jingle. Et non, toujours pas. La séance du jour sera dédiée aux superstitions. Et qui dit superstition dit marin. Et oui, la dernière fois, je vous parlais des connivences qu'on trouve entre le lieu théâtre et un bateau. Et qu'est-ce que c'est que ça, cet étroit partenariat entre deux univers qui semblent a priori n'avoir rien à voir? Bah si, non, ça a rien à voir. C'est, l'un, par exemple, est entouré d'eau, et autour d'un théâtre, il y a des rubalises, parce que c'est fermé en ce moment, donc ça a rien à voir. Et rien de plus superstitieux qu'un marin, surtout au XVIe siècle. À croire que traverser les océans sur des coques en bois et jouer sa vie à une bonne ou une mauvaise météo rend croyant, étrange, non? Bah, sauf que les marins, à cette époque-là, quand ils n'étaient pas à flot, ils étaient dans les théâtres. Et ouais, parce que c'est l'époque où on voit les choses en grand sur les planches, hein, et je ne parle pas de celles qui flottent. Sauf que pour ramener sur scène un mur, tout en faisant descendre un lustre et lever le rideau, ben, faut de la machinerie et des bras. Et qui mieux que des marins pour répondre en une seconde à un ordre donné en tirant sur une corde? Ah merde. Je vous dois un apéro. On ne dit pas corde, ni sur un bateau, ni sur un plateau. La raison? Ben, pour être efficace, les marins avaient besoin de nommer précisément les choses. Ainsi, on disait une drisse pour hisser la voile, un boot, une écoute, et la corde. Ben, la corde, le mot, il sert à désigner celle dont on se sert pour pendre les mutins, et aussi c'est celle qui sonne le glas pour accompagner les défunts. Pas marrant. Et un truc qui fait référence à la mort, on n'en parle pas, ça porte la poisse. Et bien sur un plateau, ça vaut de payer la tournée, c'est moins grave. Bon, et puis aujourd'hui, vous n'allez pas vous ruiner en resto a priori. Allez, un petit deuxième. On ne siffle pas sur scène. Ou, du moins, on ne sifflote pas. Bon, déjà parce que ça risque d'attirer les sifflets du public, on n'a pas envie. Mais en plus, bah, c'est de cette façon que les régisseurs, toujours les marins, communiquer pour se donner des consignes. Du coup, le quidam qui sifflait tranquillou sur la scène, bah, il risquait sans le savoir de demander à ce qu'on fasse tomber le lustre. Et ça, le Cid, il aurait pas aimé, je pense. Allez, deux derniers rapides. De toute façon, la liste, elle sera non exhaustive. On ne se dit jamais bonne chance avant de jouer. Tout comme on ne dit jamais bonne chance à un capitaine de marine. Ben ouais, c'est pareil, ça risque de porter la poisse. Alors nous, à la place, ben, on se dit merde. Alors, ça viendrait du fait que les gens, ils venaient en calèche à l'époque. Et qui dit calèche dit chevaux. Et ben, plus il y a de chevaux, plus il y a de crottins. Donc, on souhaite en fait d'avoir du public. En Italie, ils disent toi toi et ils se claquent les fesses. Je sais pas pourquoi. Mais c'est convivial. Et puis, c'est Covid. Le dernier. Après, j'arrête. Alors, bon, celui-là, ça s'est un peu perdu. Hein. Mais normalement, on ne porte pas, de vert sur un plateau. Je parle de la couleur. Hein. Mmh. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que Molière, mort sur scène, juste à la fin, portait, semble-t-il, un costume vert ce jour-là. Et je vous l'ai dit, les références à la mort, on n'aime pas trop. Et la deuxième raison, c'est qu'au XVIe siècle, on utilisait l'arsenic pour colorer les habits en vert. Pas super, super. Bon, sauf si c'est pour aider Juliette à s'empoisonner à la fin. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ferai la suite une prochaine fois dans un prochain épisode. On se retrouve rapidement. Et puis, merde, hein, pour la suite de l'émission.
On a le droit de dire merci quand on nous dit merde?
Non, on n'a pas le droit de dire merci, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Mais non, parce qu'on ne dit pas merci, évidemment. On dira peut-être merci à la fin, on ne va pas prendre le risque.
Toutes ces choses à respecter.
Et ouais, mais c'est, moi j'aime bien, ça fait, je trouve que ça crée du folklore et du coup ça crée des règles en commun où qu'on aille.
Ouais, de connivence aussi.
Ouais, moi j'aime bien ces petites traditions qui n'ont plus trop de sens mais qui sont amusantes à respecter.
Mais quand même. Bon, j'ose pas trop te dire merci, mais quand même. Et ouais, j'ai appris plein de choses moi sur le théâtre.
Ouais, bah écoute, on va essayer de continuer sur cette lancée.
Bon, à dans deux semaines.
Ouais.
Merci Céleste et Annie pour votre participation.
Mais de rien.
Merci à toi Mehdi, merci Céleste.
J'espère que vous avez passé un bon moment. Et un grand merci bien sûr aux auditrices et aux auditeurs qu'on embrasse. Cette émission est disponible en podcast sur radio-g.fr à la page de l'Oreille Curieuse. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission à 18h10 avec un programme.
Ouais, il y aura une chronique qu'on va écrire demain très vite dans l'après-midi, un reportage sur le service civique. Et puis Benoît, la chronique science, nature et environnement.
Eh bien c'est super, un programme très intéressant. Eh bien on vous dit à bientôt, à demain et passez une bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Radio G, 101.5 FM.
stillness I cling to. Nothing but my beating heart, slowing as the air departs. I can't imagine the things that you've been through, wading through the great unknown, bearing so much pain alone. The fault lines we hide.